Ce bloc est judicieusement inséré ici pour vous introduire l'émission qui suit et ma voix remplit le bloc pour vous accompagner vers le titre de l'émission de sorte à ce que vous sachiez ce que vous vous apprêtez à entendre. Vous écoutez dans le champ lexical et cette semaine le mot c'est « efficacité ». Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Chaque semaine, on prend un mot, on tourne autour, on vous présente reportages, chroniques et chansons. L'équipe de Dans le champ lexical revient de vacances. Où est-ce qu'elle a procrastiné? Elle n'a rien fait, rien et rien fait. Donc, on s'est dit que pour le retour, on changerait les choses et qu'on allait revenir au travail assez rapidement avec le mot « efficacité ».
La première définition du mot « efficacité » se trouve dans le Dictionnaire de l'Académie française, première édition, publié en 1694. On y dit que l'efficacité signifie la même chose qu'efficace, mais qu'il est moins en usage et se dit principalement de la grâce, comme dans « l'efficacité de la grâce ». Aujourd'hui, on pourrait penser que ça a changé, parce que si la procrastination fut louangée dans le mouvement hippie des années 70, l'efficacité d'aujourd'hui tient beaucoup plus de la performance que de la grâce. Il faut être efficace. Aujourd'hui, être efficace veut dire avoir un bon rendement au travail, faire l'épicerie rapidement, manger en 15 minutes, placer 8 rendez-vous dans une journée, faire le lavage, le ménage, la vaisselle, la comptabilité, les repas, changer son statut Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, MIRC, tenir à jour ses REER d'une main et élever les enfants de l'autre. Mais d'un certain point de vue, l'efficacité moderne s'est pas tant éloignée de l'efficacité décrite dans le dictionnaire de 1694. Car l'efficacité d'aujourd'hui a aussi un lien, à sa façon, avec la grâce. Ne serions-nous pas clairement moins gracieux, nous les hommes, sans ce rasoir avec toujours plus de lames? Parce que celui à une lame ne suffisait pas. On en a mis deux, puis trois, et là on est rendu à combien, là? 10, 12? Nos joues n'ont jamais été aussi bien rasées. Nous sommes gracieux. Et efficaces.
Se regarder toute la journée, rien à faire d'autre qu'à s'aimer. Mon amour, endormi à moitié réveillé, de peur de trop nous manquer. Mon amour. Manipuler la réalité pour mieux continuer de rêver. Mon amour, ne plus jamais se quitter, ça ne pouvait pas durer. Mon amour, pardonne-moi si tu savais, pour toi j'aurais voulu changer. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. J'aurais mieux fait de m'écouter, mais j'ai eu peur de m'avouer la vérité. Mon amour, c'est plus la peine, plus la peine. J'ai préféré me défiler. Mon amour. Je peux pas tout abandonner. À quoi ressemblerait ma vie si parce que je t'aime j'oubliais tout ce que je suis. Pour toi j'aurais voulu changer. J'ai menti, je
tu t'es déjà couché à 2-3 heures du matin une fois en écoutant la TV?
Oui, très certainement.
Et donc, tu as probablement vu de ces magnifiques infopublicités qui passent, comme par exemple le Magic Bullet.
Hé, attends un peu! Tu viens de mélanger des boissons fouettées, t'as battu une omelette, t'as moulu du café et t'as préparé deux types de pâte à muffins dans ce truc. Mais c'est quoi exactement?
C'est le Magic Bullet.
Le magicien de comptoir individuel et polyvalent.
Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir ta lame, on place le bullet sur la base alimentée et on presse. Tant qu'on le maintient, ça fonctionne. Quand vous voulez arrêter, vous relâchez.
On voulait essayer donc cette chose qui avait l'air si efficace. Dans un seul 2 minutes, ils font 15 recettes avec vous, vous, vous. On pèse 3 fois dessus, on a une salsa, on a un truc au fromage, on a une omelette, on a des muffins.
Est-ce que quelqu'un a dit muffin?
C'est ce que j'ai dit, Hazel.
On s'est dit, waouh, c'est tellement efficace. On parle d'efficacité, faut l'essayer. Donc, Christiane, t'as un Magic Bullet?
Je suis l'heureuse propriétaire de Magic Bullet.
L'as-tu acheté à la télé?
Non.
Quand même, tu l'as acheté dans une boutique qui
vendait... Dans un petit magasin qui vend des choses qui vendent à la télé.
Pourquoi?
Je m'en souviens plus, ça fait longtemps. En fait, pour faire des smoothies, j'avais vraiment déjà ça en tête quand je l'ai acheté. Il m'a coûté environ 50$.
OK. Comparé à l'annonce qui était 3 versements faciles de 33 et 33, mm-hmm.
On fait le calcul. Est-ce que tu as eu tous les morceaux qu'ils disent dans l'annonce?
Oui, tous les morceaux, y compris le fameux extracteur à jus.
Avec l'ajout de cet ingénieux extracteur, le Magic Bullet devient à présent la centrifugeuse Bullet. On est tous censés manger de 5 à 7 portions de fruits et de légumes par jour, pas vrai?
Mais personne mange ça. Personne. Et enfin, on va y ajouter quelques têtes de brocolis. Blah, je déteste les brocolis. Hey, ça a bon goût. Ça goûte même pas des légumes.
Ça, on va l'essayer tantôt, ça, l'extracteur à jus.
Non, je l'ai jeté dans la première semaine où j'ai acheté l'appareil.
Ah.
Ça fonctionne purement et simplement pas. Il y a rien qui fonctionnait comme dans l'annonce pour l'extracteur à jus. J'ai jamais réussi à faire du jus avec ça.
Puis-je offrir du café à quelqu'un?
Où est le moulin à café? Je vais t'aider.
Oh, reste assis. On n'a pas besoin d'un moulin à café.
Tu as déjà essayé de moudre ton café?
Non, j'avoue, j'ai jamais essayé.
Oh, ben on va essayer ça.
Parce qu'en 10 secondes, on va avoir du café fraîchement moulu. Vous êtes prêts?
OK, wow. Non, mais j'en mets la quantité qu'ils mettent dans l'annonce, à peu
près. OK. Alors, quand tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Et maintenant, regarde ça.
Ah, ben quand même, hein?
Direct pour le café. C'est pas turc, là, mais...
Ah oui, mais quand même.
Pour le café, je m'en rappelais, en fait, ça marche.
Ça sent bon, hein?
J'ai trouvé un nouvel usage à mon Magic Bullet.
Ça sent bon, Caroline.
Donc, test numéro 1, efficace. Et en quoi étudies-tu?
En histoire.
Est-ce que tu es du genre à procrastiner?
Oui, beaucoup.
Qu'est-ce que tu fais quand tu procrastines? Est-ce qu'il y a des activités qui reviennent tout le temps?
Je vais sur les journaux en ligne, sur Internet, je vais boire un café, je vais boire un thé, je vais voir la neige qui tombe, ça dépend.
Bref,
tout ce qui te tombe sous la main, sauf ce que tu as à faire.
Voilà, exactement.
Pourquoi?
La grande question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que je procrastine? Pourquoi est-ce que je ne vais pas travailler? Alors, j'imagine que c'est parce que je pense que ce que j'ai à faire est trop difficile, ou que j'ai mieux à faire, je sais pas. Mais effectivement, c'est la grande question que je me pose, pourquoi?
Procrastiner, c'est remettre intentionnellement à plus tard le début ou la complétion d'une tâche, même en sachant qu'il va y avoir des conséquences négatives à ne pas le faire tout de suite. Martin n'est pas le seul à se demander pourquoi il procrastine. Qu'est-ce qui fait que lui et beaucoup d'autres, incluant moi-même, ont tant de difficultés à se mettre au travail? Pourquoi est-ce si difficile pour les procrastinateurs de prendre de l'avance? Pourquoi des mineurs devient-il une source d'amusement extraordinaire quand on a nos impôts à faire? Vous serez peut-être surpris de l'apprendre, mais il existe des dizaines de chaires universitaires et de recherches consacrées à l'étude de la procrastination. Et dans les dernières années, de plus en plus de scientifiques, surtout des psychologues, se sont penchés sur le phénomène. Madame Fuchsia Sirois, par exemple, est professeure associée à l'Université Bishop et travaille à la chaire de recherche en santé et en bien-être du Canada. C'est une spécialiste renommée dans le domaine de la procrastination. De la recherche sur la procrastination.
D'un point de vue de chercheur, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi les gens continuent à procrastiner, même en sachant qu'ils vont en retirer quelque chose de négatif.
Ben alors, pourquoi procrastine-t-on?
Il y a plusieurs raisons. Mes recherches indiquent que les circonstances qui amènent à la procrastination peuvent nous en dire beaucoup. Les gens ne procrastinent pas sur n'importe quelle tâche. Si c'est agréable à faire, les gens ne vont pas procrastiner. Les gens procrastinent quand c'est difficile, quand la tâche risque de leur apporter de l'angoisse ou de l'anxiété, quand ils ne seront pas certains de pouvoir la réussir. Soudainement, tout devient une montagne et on est tenté de procrastiner.
Ah, donc c'est parce que nos tâches sont plates qu'on procrastine. C'est pas notre faute, c'est la faute des tâches.
Je dirais pas ça. Si c'était le cas, tout le monde procrastinerait.
Es-tu du genre à procrastiner?
Oui.
Beaucoup?
La plupart du temps, ouais. Je remets plusieurs travaux à la dernière minute.
Oui, la plupart du temps, si j'allume mon ordinateur, c'est fini. Je ferai pas ce que j'étais supposé.
Non, je dirais même que je fais le contraire. Je suis tout le temps trop à l'avance. Je me prépare vraiment, vraiment beaucoup pour tous mes cours.
Nous ne sommes pas tous égaux devant la procrastination. Les chercheurs ont trouvé que les procrastinateurs sont des gens qui ont de la difficulté à résister aux tentations. Et pas seulement au travail, dans leur vie en général. Les procrastinateurs sont généralement des gens qui ont de la difficulté à tenir un régime. Et surtout, ils ont de la difficulté à résister aux tentations sociales, comme d'aller boire de l'alcool, par exemple.
Nos recherches indiquent que les procrastinateurs boivent plus. On pourrait croire que c'est pour compenser le stress, mais non. Quand on enlève cette partie de l'équation, statistiquement, il reste un lien entre une plus grande consommation d'alcool et la procrastination. Ça tient à leur difficulté à dire non, à se contrôler. Après quelques verres, les gens ordinaires vont s'arrêter de boire. Mais les procrastinateurs, eux, vont prendre un autre verre parce qu'ils n'ont pas cette discipline. Ils n'ont pas cette capacité à se dire « j'ai assez bu, je vais m'arrêter pendant que c'est encore agréable ». Cela fait partie du profil des procrastinateurs de préférer tellement les choses agréables qu'on n'arrive pas à dire non, même si ça devient désagréable.
Et selon les études, les hommes ont plus tendance à procrastiner que les femmes, un peu plus. Les étudiants aussi. Pour ces derniers, c'est un peu normal, parce que les étudiants ont plus de travaux à faire et surtout plus de travaux qu'ils ne sont pas certains de pouvoir réussir à faire.
Dès que je commence à faire mon travail, je me dis « il faut que je le finisse parce que sinon je ne le finirai pas ». Fait que je fais vraiment tout d'un coup. Je me lance. Quand je me lance dans mon travail, je me lance à fond. Puis s'il n'est pas fini, j'arrête pas.
Oui, exactement. J'en fais plus en peu de temps quand je procrastine.
Moi, j'ai une technique, c'est que je m'y prends par petits bouts très longtemps à l'avance. Et donc, j'arrive jamais à la dernière minute. Mais de toute façon, le stress, c'est bon pour la performance à plus tard.
C'est vrai, ça?
Non, non, non.
Pas du tout. Plusieurs recherches ont examiné le niveau de performance de ceux qui disent avoir besoin de la pression et du stress pour travailler. En moyenne, ils ont de moins bons résultats dans ces circonstances. Ceux qui disent ce genre de choses ne font que chercher des prétextes. Personne ne se dit au départ, je vais attendre à la dernière minute parce que c'est comme ça que je vais être le meilleur. Non, les gens le font et a posteriori se disent pour se justifier que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Or, ils n'ont pas décidé ça d'avance. Aucune étude ne peut appuyer cette idée, malheureusement.
Procrastiner, c'est mauvais pour l'efficacité et la productivité. Mais ça peut aussi l'être pour la santé de celui qui procrastine. Travailler à la dernière minute vient avec du stress et de l'angoisse. Les études de Mme Fuchsia-Sirois ont démontré que les procrastinateurs ont plus de rhume, plus de grippe et de problèmes digestifs et même des maux de tête, tous des problèmes de santé reliés justement au stress. Vous trouvez que rien là, un petit rhume ou un mal de tête? Ben, il y a encore pire. Encore une fois, la chercheure Fuchsia-Sirois.
On peut aussi examiner le phénomène d'un point de vue comportemental. Les gens qui procrastinent dans leur vie en général vont aussi procrastiner quand vient le temps de prendre un rendez-vous chez le médecin, par exemple. Ils ne vont pas persévérer avec leur résolution du nouvel an, faire plus d'exercices, mieux manger, non. Les gens qui procrastinent constamment ont tendance à avoir des modes de vie moins sains.
Donc, procrastiner, c'est dangereux. Dangereux pour votre efficacité et pour votre santé. Mais vous allez le faire pareil, on le sait. Bon, partant de là, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de la procrastination? Juste une chose, juste une, s'il vous plaît.
I think we can learn something about ourselves from procrastinating if we acknowledge that we're procrastinating.
Je crois qu'on peut en apprendre sur nous-mêmes quand on reconnaît qu'on procrastine. On peut se demander pourquoi suis-je si nerveux d'accomplir cette tâche. Je crois que ça peut nous rendre conscients de problèmes plus profonds qui nous empêchent de nous accomplir ou alors nous faire questionner nos objectifs qui ne sont peut-être pas ceux que l'on veut vraiment. Tout le monde procrastine de temps à autre, c'est pas mal en soi. Mais quand ça devient une façon de vivre, là, ça peut avoir des impacts négatifs, même sur notre santé. Dans ces cas, reconnaître qu'on procrastine peut nous en dire beaucoup sur nous-mêmes.
Bah, c'est au moins ça.
À la gauche, ça va aller sur Drummond. Tu nous rappelles à Drummond, tu nous fais l'aller-retour. Tu nous rappelles avec le numéro de bord.
OK, 10-4.
Mélanie Scala est courrier à vélo. Dans le documentaire « L'homme trop pressé prend son thé à la fourchette » de Sylvie Groux, elle explique pourquoi, dans son métier, l'efficacité, c'est pas une option.
Nous, je veux dire, le temps, c'est de l'argent. Là. C'est vraiment ça. Mais je veux dire, il y en a qui pensent qu'on est payé à l'heure, des fois. Fait quand on arrive dans des bureaux, ils prennent leur temps. Puis... Mais finalement, tu sais, je veux dire, on est payé à l'enveloppe. C'est ça le défi d'être courrier. Puis c'est environ 1,75 l'enveloppe dans nos poches. Imagine quand on fait 100$ dans une journée, combien on a fait d'enveloppes. Souvent sur la radio, tu vas entendre « Mélanie, t'es là dans combien de temps? » Là, normalement, si t'es là dans 10 minutes, tu dis « Je suis là dans 5 minutes. » puis tu te grouilles pour être là dans 5 minutes. Parce que tu dois être là dans 5 minutes. Parce que sinon, souvent, c'est « Mélanie, on va perdre le client ». Ça, là, ça veut dire, si je veux qu'on garde le client, puis avoir mes payes par rapport à ce client-là, faut que je me grouille tellement, OK, que t'oublies que tu vas peut-être te faire frapper parce que tu vas aller plus vite que ton... Justement, plus vite que ton rythme, c'est là que tu te fais frapper. Parce que là, t'essayes d'aller vite, le plus vite possible, parce que là, non seulement t'as sur le dos le client, t'as sur le dos ta compagnie, t'as sur le dos les gens avec qui tu travailles qui vont perdre le client si toi, tu vas pas vite. T'as tout ça sur le dos. J'ai sur le dos Simon, mon copain, que lui aussi... Tu sais, il va avoir moins de job. Fait que là, tu vas vite, le plus vite possible. Tellement vite que les voitures te klaxonnent. Tellement vite, des fois, que, je veux dire, tu te fais crier des noms. Tu sais, genre, mais voyons, t'es folle, non, non, non. Pourtant,
419.
La société qui... La société de consommation, la société, les grosses entreprises, c'est eux qui me disent, brûle tes feux rouges. C'est eux qui me disent ça. Tu sais, je veux dire, c'est eux qui me disent ça. C'est tout le monde qui me dit ça. Va plus vite, va plus vite. Tu sais, moi, j'ai le pouls de la ville là, qui fait ça. Va plus vite, va plus vite. On a besoin de toi, va plus vite, tu sais.
L'homme trop pressé prend son thé à la fourchette de Sylvie Groux, disponible sur le site de l'ONF.
Présentons le Magic Bullet original, le magicien de comptoir individuel et polyvalent qui fait tout en 10 secondes ou moins.
Mais tu sais quoi? Le pire pour moi, c'est de hacher les oignons. Je sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai les mains qui puent pendant des jours, j'ai les yeux qui pleurent. Je peux pas le supporter. 1, 2, 3 secondes. Et voilà des oignons parfaitement hachés. Regarde, et voilà... Dans la poêle! Regarde!
Donc, évidemment, j'enlève la pelure.
Ouais, ça, c'est... OK, dans l'annonce, on va dire aussi, ils ont une assiette dans laquelle il y a plein de petits oignons déjà épluchés, des gousses d'ail déjà séparées. Tout le monde a ça sur son comptoir.
C'est mais dans le contrat ici... de leur femme de ménage.
Ben, c'est ça. Mais ici, non. Donc, il faut quand même sortir le couteau, sortir la planche et éplucher notre oignon et le couper parce que nous, on n'a pas des petits oignons.
Je le coupe grossièrement quand même.
Donc.
Vas-y, Christian.
1, 2, 3. Et
fait qu'on a de la purée d'oignons sur les côtés.
En fait, on a un assortiment de tailles d'oignons.
Des gros morceaux inégaux dans le milieu.
Mais des gros, là, mais gros de chez gros. Ah, là, ouais. Des...
on lui donne-tu une petite autre chance, gars? Un autre petit 3
clics. Ah oui, histoire mais d'avoir une purée, gars.
Ah, ouais. Christiane?
Puis là, ben, on a passé la slush d'oignon.
Et sincèrement, je l'ai juste ouvert et je pleure quand même. Donc, je pense que le pire n'a pas été évité finalement.
Ah non, ça
là.
Pue quand même. Puis
Non.
C'est raté. Et il y a aussi que dans l'annonce, ils disent, alors je pèse 1, 2, 3. Ils font juste comme mettre son doigt dessus. Je m'excuse, mais il faut forcer comme un défoncé pour
à
que ça marche.
À deux mains. Excalibur.
Donc, test d'efficacité oignon. Non.
Regarde bien ça. C'est ce que je fais juste avant le grand jeu. Mets 5 ou 6 tomates cerises là-dedans, un petit peu d'ail, un peu de piment fort, un oignon, un peu de coriandre. Regarde. 1, 2, 3 secondes et c'est tout. Et voilà,
Une délicieuse salsa prête à manger.
Ah, laisse-moi voir ça.
D'accord, Berman. Goûte ça.
Moi, je suis très impressionnée si tout ça se hache.
Égal. Ça va se hacher, ça, c'est sûr. Parce que ça va se hacher égal.
Alors, envoie ça de l'oc.
C'est complètement... Je vais essayer. Mais rien, quand on le reçoit, il y a des instructions qui disent qu'il faut le brasser de temps en temps comme ça.
Non, mais...
On brasse. Oh! Ça va le pognon.
Vous voyez la...
Ah,
c'est important.
Dégage.
Ça, c'est plus
rien.
Là, il y a comme...
Il y a une tomate prise.
Trois quarts des ingrédients qui ont, se sont unifiés dans une sorte de beige douteux, mais un gros, gros morceau de tomate en dessous.
Brasse plus, brasse plus.
C'est moi qui ai le morceau de tomate.
Ça sent bon, par exemple, cette fois-ci.
Ah, ça... Ouais, faut prendre une photo. On va vous mettre la photo sur le site web. Vous jugerez par vous-même. Je me prépare sérieusement à goûter la pire salsa de toute ma vie.
En tout cas, c'est la première fois que j'en vois une de cette couleur-là.
Ça a pris un drôle de ton gris. Gris-beige.
C'est comme du gruau.
Ouais, donc...
Pour la science.
Oh mon dieu, c'est affreux. Oh mon dieu, c'est affreux. J'ai mal à la bouche.
Et ce qui est bien, c'est que dans l'annonce, il semble avoir aucune nécessité de mettre des épices, quelles qu'elles soient, quand c'est dans le Magic Bullet. Tu mets ça
mais
dans le Magic Bullet.
C'est peut-être à cause de la quantité de piment qu'ils mettent, ou
ben
toute
oui.
Épice aurait été tuée.
Pas besoin de cumin, tu sais. Wow.
C'est un oignon en purée avec de la coriandre.
Et du piment fort.
Oui, parce que la tomate a refusé.
C'est ça,
donc, à date, le café, ça a marché?
Le café, ça a marché.
C'est ça.
On est présentement dans un McDonald's. Rassurez-vous, on est rentré juste pour les toilettes. On n'a rien mangé. McDo sert plus de 64 millions de clients par jour. Comme ils ont 32 000 restaurants partout à travers le monde, ça fait une moyenne de 2 000 clients par restaurant par jour. Évidemment, toutes les franchises ne sont pas égales. Parce que avec ses 27 caisses et ses 40 000 clients par jour, c'est à Moscou qu'on trouve le restaurant le plus fréquenté de la planète. Ça, madame, monsieur, c'est efficace. Vous écoutez Dans le champ lexical et aujourd'hui, on parle d'efficacité.
Il y a toutes sortes de mesures pour mesurer le changement et l'efficacité d'un modèle thérapeutique. Je suis Marc-Simon Drouin, professeur au département de psychologie de l'UQAM et psychologue clinicien.
Comment est-ce qu'on évalue l'efficacité d'une chose aussi, disons, inconcrète?
Bien, c'est peut-être pas si inconcret que ça. Pour qu'une psychothérapie soit efficace, peu importe le modèle de psychothérapie qu'on utilise, c'est très important de construire une alliance thérapeutique avec le client. Et dans l'alliance thérapeutique, il y a en général la première chose à faire, c'est de s'entendre sur les objectifs de la thérapie. Donc, ce qui nous permet de mesurer l'efficacité d'une thérapie au départ, c'est est-ce qu'il y a eu tout de suite en commençant une entente entre le thérapeute et le client sur quels sont les objectifs, pourquoi la personne vient en thérapie. Et ça, ça peut prendre un certain temps pour être établi avec le client. La plupart des gens qui viennent nous consulter, mais certains viennent pour un problème très précis, mais la plupart viennent pour des choses un petit peu plus abstraites, un petit peu plus impressionnistes. Hein? C'est pas toujours très clair. Ils me disent « je file pas, je me sens pas bien, j'ai l'impression de plus être comme j'étais ». Alors, la première chose qu'on va essayer d'établir, c'est « mais qu'est-ce que vous souhaiteriez en thérapie ?»
On remarque l'efficacité d'une psychothérapie à la guérison, si on veut, d'un patient. Est-ce qu'il y a un système d'évaluation à travers les psychothérapeutes plus précis?
Ben, il y a plusieurs façons de mesurer l'efficacité. Il existe plusieurs échelles, il existe plusieurs... la meilleure, je vous dirais par exemple que le critère le plus fiable, c'est le client. C'est lui qui va vous le dire. Est-ce que lui a la sensation d'avoir changé? Est-ce que lui est satisfait de ce qui s'est passé là? Est-ce qu'il a atteint ses objectifs? Mais il existe aussi toutes sortes d'instruments, comme par exemple les instruments qui mesurent l'intensité des symptômes. Si vous avez quelqu'un, par exemple, qui souffre d'une dépression majeure, bien, il y a des symptômes relativement facilement identifiables. Hein? La difficulté de sommeil, la difficulté de concentration... Alors ça, c'est des symptômes qu'on est capable de mesurer relativement opérationnellement. Donc, il y a des mesures d'efficacité. Il y a des mesures, par exemple, sur l'estime de soi. Il y a des mesures sur la qualité des liens affectifs. En recherche, on utilise beaucoup de ces mesures-là. Mais là, faut faire attention. Ce n'est pas des mesures objectives. C'est des mesures opérationnelles. Et il y a une grosse différence entre les deux. Parce que le client qui répond, il répond toujours à partir de sa subjectivité. Le thérapeute qui évalue ça répond à partir de sa subjectivité. Mais c'est opérationnalisable. Donc, on est quand même capable de dire qu'il y a des changements qu'on est capable de mesurer. Avec toutes sortes d'instruments qui ont été validés là, depuis plusieurs années.
Et c'est arrivé en quelle époque ce terme d'efficacité de la thérapie?
C'est sorti presque en même temps que la psychothérapie. Mais il y a eu un moment charnière dans l'histoire de la psychothérapie, c'était en 1952. Où Eysenck, qui était un psychologue, a mené une étude où il est arrivé à la conclusion que la psychothérapie était aussi efficace que le passage du temps. Donc, si vous aviez un problème, que vous ayez en psychothérapie, que vous n'y alliez pas, ça donnait exactement la même chose. Ça a été une bombe hein, dans le monde de la psychothérapie. Et ça a mobilisé toute la communauté de chercheurs en psychothérapie pour aller trouver des mesures de l'efficacité thérapeutique. Parce que les gens disaient, écoutez, on envoie des patients, on voit bien nous autres qui guérissent, on voit bien qu'il y a des choses qui... On voit bien que nos traitements sont efficaces, puis que les douleurs sont soulagées, que les souffrances sont soulagées, que les gens fonctionnent mieux. Alors, ils se sont mis à vouloir mesurer ça. Donc, en 52, ça a vraiment été le moment charnière. Après ça, il y a eu des grandes têtes dans toutes les grandes approches de la psychothérapie. Vous avez Carl Rogers qui a fait beaucoup d'études sur l'efficacité. Je dirais que ça demeure une priorité presque de toute éternité d'aller montrer l'efficacité des modèles de psychothérapie. Mais il y a des modèles qui se prêtent bien à certaines formes de validation et d'autres modèles qui se prêtent moins à certaines formes de validation. Mais ceci dit, l'efficacité thérapeutique, ça demeure une... Et on est en plein là-dedans à l'heure actuelle, là, dans des très grands débats en psychothérapie sur la mesure d'efficacité et quels sont les traitements qui sont validés, quels sont les traitements qui reçoivent une reconnaissance au niveau scientifique. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un bon nombre de modèles dans les grandes approches thérapeutiques qui sont valides et qui ont été capables de démontrer leur efficacité.
Qu'on dise parfois de certaines chansons à succès qu'elles ont un refrain efficace, l'efficacité comme valeur n'a pas tellement la cote auprès des chansonniers et paroliers. Tapez le mot « efficace » dans les engins de recherche de iTunes ou Archambault. Vous obtiendrez un choix impressionnant d'applications et de livres sur l'organisation et la productivité. Mais des chansons? Aucune. En fait, on trouvera plus aisément des chansons faisant l'éloge de la paresse ou célébrant la bohème et l'envie de rien faire. Et la paresse, c'est bien le contraire de l'efficacité, non? Sauf si on en fait un art. Comme dans La paresseuse du chanteur français Benabar, où l'héroïne peaufine et planifie sa paresse. Disons qu'elle décide d'aller à la piscine. Elle traîne les pieds, s'arrête et s'assoit sur un banc pour étudier le chemin le plus long et le plus lent. Elle évitera donc le métro s'il n'y a pas de grève et l'autobus s'il n'y a pas de bouchon. Bref, elle paresse avec zèle.
Certains matins, elle révise son emploi du temps. Imagine ce qu'elle doit faire et se dit, et puis non.
Elle paresse.
Au ralenti, elle glisse de la cafetière à la fenêtre.
Elle aimerait entendre un disque, mais il faudrait le mettre. Et rien ne presse. Mademoiselle paraisse à Paris. Elle traîne, elle pérégrine. Son Altesse caresse aujourd'hui l'idée d'aller à la piscine.
Et pourtant, nous avons réussi à trouver une chanson où le protagoniste essaie de se départir de ses mauvaises habitudes et de combattre sa tendance à la procrastination. Dans l'importance d'être constant, Seba de Gatineau souhaite suivre la ligne qu'il s'assigne sans s'écarter de la route et de la suivre jusqu'au bout. Il énumère toutes les choses qu'il a entreprises sans les terminer, mais assure qu'aujourd'hui, il s'y met pour de vrai.
Dude, je te dis dude, aujourd'hui je suis dedans, je te donne des nappes, mais là je suis dedans. Je vais me tracer une ligne pour la suivre jusqu'au bout. Suis ce que je m'assigne sans m'écarter de la route. Je vais lâcher la viande pour me mettre aux légumes. Parce que c'est que je fume. Aujourd'hui je m'y mets pour de vrai. Aujourd'hui je suis prêt pas à peu près. Aujourd'hui je m'y mets pour de vrai. Aujourd'hui je lâcherai pas, je suis presque prêt.
L'important c'est le constat.
Suive sa voix, suive une voix, sa voix, suive sa route jusqu'au bout, sans doute.
L'important c'est le constat.
Suive sa voix, suive une voix, sa voix, suive sa route jusqu'au bout, sans doute. J'ai commencé pour.
Vous cherchez des conseils pour être efficace en affaires? Dans la pièce « Comment réussir dans la chaussure » tirée de Dédé, une opérette des années 20, Maurice Chevalier nous explique que ni la qualité du produit, ni la meilleure des réclames ne valent les vertus d'une vendeuse voluptueuse au corsage échancré. Autrement dit, la façon de vendre est plus importante que ce que l'on vend. Ça n'a pas tellement changé.
Pour bien réussir dans la chaussure, porter tout simplement un corsage dont les chandrures laissent voir des trésors charmants. Le client qui plonge dans l'ouverture grise et dira, ça y est, c'est tout à fait ma pointure. C'est exactement la forme qui me plaît. Pour bien réussir dans la chaussure, porter tout simplement un corsage dont les.
Dans la chanson « La Java des bombes atomiques » de Boris Vian, c'est une question d'efficience scientifique qui préoccupe l'oncle qui a pour loisir de bricoler des bombes nucléaires dans son atelier. La cause de ses soucis, c'est qu'il n'arrive pas à leur donner un grand rayon d'action. Jusqu'au jour où il se rend compte que ce qui compte vraiment dans l'efficacité d'une bombe, ce n'est pas tant sa portée, que l'endroit où elle tombe.
À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
La chanson retenue cette semaine par Dans le champ lexical traite aussi d'efficacité meurtrière. Dans les 100 000 façons de tuer un homme, Félix Leclerc énumère diverses manières de mettre fin à ses jours ou à ceux de son prochain en pesant leurs avantages et inconvénients. Mais malgré l'abondance des procédés funestes, il demeure convaincu que la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer pour être chômeur. Car en plus, dit-il, c'est gué dans une ville, ça fait des morts qui marchent.
Sur les 100 000 façons de tuer quelqu'un, voici la plus efficace. Sur les 100 000 façons de tuer quelqu'un, la plus dangereuse c'est le coup de fusil, la plus onéreuse c'est le coup de canon, ça demande une équipe entraînée au bruit. Il y a toujours la corde dite pendaison, pour le nœud coulant faut avoir le don. Sûr que la noyade attire les moroses, mais pas garanti parce que l'eau réveille. Y a le bon vieux poison, mais là, faut la dose. Pas assez, tu dors, un peu trop, tu veilles. Le gaz est plus propre, pas de commentaire, mais à tout instant, gare au courant d'air. Non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler en lui donnant de l'argent. Le rasoir, ma foi, cette saloperie, assez fanatique parce que c'est tranchant. la hache, le couteau et la scie aussi. Mais c'est un domaine bourré d'accidents, très peu efficace. Et la collision, ça brise une face, laisse des lésions. Pour mourir de soif, faut la volonté, le dégoût de l'eau, surtout la santé. Non, vraiment, j'y tiens. La meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire. Entre mourir d'amour ou bien mourir de rire, la plus achalandée, c'est difficile à dire. Les deux finissent en spasme, en soubresaut, en transe, mais les deux sont jolies. Le rire toujours comique et l'autre romantique. La chaise électrique, c'est très indécent. Sauter dans le vide, pas toujours prudent. Étrangler quelqu'un, c'est perdre ses sens. Le trancher, c'est pire, c'est l'essence dessous. Non, vraiment, je reviens à mon sentiment premier. L'infaillible façon de tuer un homme, c'est de le payer pour être chômeur. Et puis c'est gay dans une ville, ça fait des morts qui marchent.
Dans notre vie moderne d'aujourd'hui, où tout va trop vite, faut être efficace. Faut aller droit au but. Right to the point, comme disent les entraîneurs du Canadien et les vendeuses à commission du centre-ville. Efficacité. E-F-F-I, puis le reste des lettres, là. Ah ouais, roule, pas rien que ça à faire, moi! Être efficace, c'est d'abord et avant tout de ne pas faire partie d'une équipe de baseball. Là, tu sauves du temps en crise. Mais de nos jours, ça ne suffit plus. On ne peut plus se dire efficace sans dire aussi multitâche. Multi, préfixe d'origine grecque qui réfère à la pluralité, à la multiplicité. Et tâche, mot qui vient du vieux français tâche, avec un S, et qui signifiait alors quantité de travail qu'on s'est engagé à faire dans un temps et pour un prix déterminé. Multitâche, donc, comme moi en ce moment, je fais une chronique sur le multitâche, mais je fais aussi en même temps un segment éducatif sur l'étymologie et la racine des mots multitâche. Bon, le multitâche, on s'entend, c'est d'abord et avant tout de faire 5 tâches qui servent à rien en même temps que la tâche qu'on est supposé faire. Et souvent, plus tôt que la tâche qu'on est supposé faire. Tu ressentiras pas le besoin d'être multitâche en mangeant du foie gras ou en faisant un tour de manège en ronde. On n'a jamais vu personne mettre à jour son statut Facebook, tricoter une écharpe et assembler un avion en bâton de popsicle pendant la montée qui fait clac 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 dans le monstre à ronde. Ça arrivera jamais. C'est un classique de dire que les femmes sont naturellement multitâches et c'est en partie vrai. Moi, par exemple, j'accouche en enregistrant mon message de répondeur puis en faisant mes impôts. Mais insérer des entre appeler puis plus tard, ça sera toujours plus charmant qu'un restant de placenta sur ton rapport d'impôt. Aussi, quand j'appelle chez Belle, je téléphone, je pitonne les demandes de l'opératrice, puis après ça, je fais une brassée de foncé, je prépare un rôti de bœuf, je vais magasiner des cartes chez Ikea, je décape mes planchers, puis si on m'a pas encore répondu, je fais une partie d'échec. Je rentabilise ça, moi, le niaisage chez Belle. Bref, le multitâche, c'est un mélange de débrouillardise inutile et de perte de temps déguisée en surproductivité. Et cette surproductivité, tout autant que ce besoin d'évasion est rendu nécessaire par la vie moderne, qui est de plus en plus stressante. Parce que le multitâche, c'est quelque chose de moderne qu'on fait sur un ordinateur ou une bébelle technologique. Avez-vous déjà vu un pelleteur de charbon multitâche? Avez-vous déjà vu un pelleteur de charbon point? Ben, si t'en avais déjà vu un, t'aurais remarqué qu'il joue rarement à Angry Birds sur Twitter en envoyant un SMS sur MIRC à son chum Steve69 pendant qu'il pelte. Et parce que c'est techno, le multitâche, on a tendance à penser que c'est un truc qui est exclusivement pour les jeunes, comme la drogue, le roulis roulant ou se promener avec un ghetto blaster sur l'épaule en écoutant Run DMC puis s'arrêter pour breakdancer sur une boîte de carton démontée. Mais c'est faux! Ma mère, par exemple, est 100% multitâche sur son ordinateur. Elle est capable de geler l'écran, changer la grosseur de l'écriture et de perdre ses documents en un seul clic de souris! Bon, c'est certain que ça ne s'applique pas à toutes les situations d'être multitâche. Trouver que Régis Labombe est un gros démagogue au Roland de Mononcle Tapon, ça demande toutes ses forces et sa concentration. Faire fitter un pot de mayonnaise trop gros dans une porte de frigidaire, ça peut être dangereux si on n'y consacre pas toute notre attention. Conduire une moissonneuse-batteuse au centre-ville, c'est pas nécessairement compatible avec une partie de solitaire sur son BlackBerry. Faut bien choisir ses moments de multitâchage et ne pas boire de sirop contre la toux en même temps. Aussi, que ce soit pendant l'amour, en faisant des frites maison ou en escaladant le Mont-Saint-Hilaire, le multitâche est une activité qui doit se pratiquer en toute sécurité. Le port du casque est donc bien évidemment conseillé. Et si vous êtes un débutant dans le monde du multitâche, commencez par des tâches faciles. N'allez pas tout de suite extraire de l'amiante en fumant une clope sur le dos d'un poney. Finalement, la vraie question, celle qui compte, là, c'est le multitâche nous rend-il vraiment plus efficace? À coup sûr, il donne l'impression de faire plus de choses. Alors, pour des gens qui ont un déficit d'attention et qui passent d'une affaire à l'autre à toutes les 5 secondes, avoir l'air d'en faire plus, c'est amplement suffisant.
Nous présentons le Magic Bullet Original, le magicien de comptoir individuel et polyvalent qui fait tout en 10 secondes ou moins. Transformez de la glace et un peu de jus d'orange en une délicieuse boisson fouettée nutritive aux fruits ou une boisson aux protéines en 8 secondes.
On va faire une petite alternative là, à la recette. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre du jus, on va mettre du Yoplait. Je me suis dit un petit yogourt comme ça.
Je dois avouer qu'on a un certain doute sur la glace.
Donc, à mentionner, ma glace n'est pas faite forte.
Ben, c'est peut-être tant mieux.
C'est peut-être une bonne chose.
Ajoutons les fruits frais. Très frais.
Ce sont mes préférés.
Ça devrait vraiment plus fonctionner parce qu'au moins, il y a du liquide là, pour brasser le tout. Je sonne vraiment comme une hypopule.
En passant, les instructions précisent que si vous le faites fonctionner non-stop au-delà d'une minute, le moteur pourrait chauffer. Il va rester de la glace à croquer.
Donc, on entend très bien des glaçons tomber dans le verre.
Alors,
au Magic Bullet.
Yeah! C'est pas mauvais parce que les ingrédients sont bons, mais quand même, on a des bouts de...
C'est la dégustation de smoothie la plus bruyante que j'ai jamais entendue de ma vie.
Elle se boit clairement pas avec une paille.
Donc, si on suit à notre expérience, si on suit les instructions de la publicité télé, le Magic Bullet est efficace pour le café, la salsa grise aux oignons, le smoothie avec des morceaux de glace dedans, puis c'est ça.
Le muffin bleu.
Fait que, morale de l'histoire, achetez-vous un moulin à café.
En fait, c'est le format du Magic Bullet qui est pratique pour moi parce que je cuisine pour une personne.
Donc, toi, le Magic Bullet, dans certaines situations précises, te rend plus efficace.
Moi, oui.
Bon, ben si vous êtes Christiane Campagna, ben, on vous conseille le Magic Bullet. Sinon, ben...
Ouf. Demandez à un ami qui vous refile son vieux.
Ou celui qui a eu en double en l'achetant à la télé.
Et voilà.
Vous pouvez dépenser des centaines de dollars dans un comptoir rempli d'appareils culinaires, mais ils ne remplaceront pas le Magic Bullet. Au cours de cette offre spéciale de lancement, vous pouvez obtenir le système complet original du Magic Bullet à 17 éléments pour seulement $99.99 ou seulement 3 mensualités de $33.33. De plus, tous ceux qui commandent à partir de cette émission vont recevoir un incroyable cadeau qui transformera votre Magic Bullet en mélangeur Bullet avec la même puissance et la même capacité que ce gros mélangeur à $100. Mais ce n'est pas tout. Appelez dès maintenant et vous bénéficierez de cette deuxième prime extraordinaire, l'ensemble d'extraction qui transforme votre Magic Bullet en mélangeur Bullet qui fait de ses fruits et légumes un délicieux jus de légumes.
Aujourd'hui, dans le champ lexical, vous laisse sur un étrange amalgame de bons conseils. Passe-partout rencontre Isaac Newton. Car ce vieil Isaac a un jour dit « Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. » Et Passe-partout a dit « Quand on est tout seul, il faut travailler. Ça va pas tellement vite, ça va pas tellement vite. Mais quand on est deux, ça va deux fois mieux. »
Chant lexical est une émission de Joanie Larue et Mathieu Charlebois. Ont efficacement prêté leur talent cette semaine, Christiane Campagna aux chansons thématiques, Nadine Mathurin aux textes humoristiques, Chloé Barry à la recherche, Caroline G. Murphy au doublage et le Magic Bullet à la salsa douteuse et aux oignons en purée. Revenez-nous la semaine prochaine pour le mot sport.